France Musique. France Musique. Les grands entretiens, Laurent Villarem.
Je suis Willem Lachoumia et je suis né le 2 mai 1974 à Lyon. Je suis pianiste.
Sur cette affiche-là, il n'y a pas de mystère.
The signature of the head of record. Willem Lachoumia, sur ce disque, il y avait la pièce Série blanche de Jodlowsky,
oui.
Qui a été une pièce très importante, je pense même pour le milieu de la musique contemporaine. C'est une œuvre qui a frappé. Vous en étiez l'interprète.
Oui, je pense. Je me rends pas compte vraiment de l'impact que ça peut avoir. Peut-être que le fait d'utiliser ce qu'on appelle les loops, c'est ça l'idée. L'espèce de répétition, l'espèce de transe finalement, avec une superposition de mélodies, des mélodies qui s'accumulent. Peut-être que ça a eu un impact, mais l'histoire c'est que on était 4 en finale. Jodlowsky était là pour la diffusion de la pièce. Il nous a vaguement fait travailler, je crois. Avant les résultats, il est venu me voir, il me dit « Tu veux que je t'écrive une autre série ? J'aimerais bien continuer. » Et du coup, voilà, c'est l'histoire, elle est née comme ça.
Et le rapport avec les compositeurs en général ?
Alors, c'est très différent. Lui, c'est quelqu'un qui travaille la musique dans son coin et qui envoie, pof, la partition toute faite, au propre. Chaque compositeur a sa façon de procéder.
Je remarque malgré tout, vous travaillez toutes sortes de compositeurs, mais vous avez quand même beaucoup travaillé avec des gens de votre génération. Samuel Seguicelli, Benjamin de la Fuente, Franck Bedrossian, Raphaël Sendo, Yann Robin, ils ont tous votre âge, plus ou moins.
C'est vrai. Bah, ça fait partie de la musique contemporaine, je dirais. Dans la musique de maintenant. Je n'ai pas spécialement recherché les compositeurs qui sont nés dans les années 70. C'est plutôt les rencontres. Raphaël Sendo, je l'avais rencontré à Musica. Du coup, on a parlé de concerto, comme ça, jusqu'à 2h du matin. Et puis, d'un coup, il est arrivé, il m'a dit « Ah, je t'écris un truc !» Voilà.
Et parmi tous ces compositeurs qu'on a cités, vous avez dit que Jodlowsky, il envoyait sa partition toute propre et toute nette. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire ?
Oui, il y en a une qui a été particulière, c'était avec Gérard Pesson. C'était assez drôle parce que j'avais joué sa musique, je l'avais rencontré et je lui avais commandé une pièce pour piano préparé. C'était un projet autour de John Cage, toujours avec. Je jouais la suite pour Toy Piano d'ailleurs. Et du coup, au début, il était assez embêté parce qu'il m'a dit, tu comprends, le piano préparé, dès qu'on joue deux notes de piano préparé, pof, on reconnaît John Cage. On a l'impression de jouer du Cage. Il me faudrait l'instrument. J'avais prévu des résidences à Royaumont, où je préparais le piano. Le compositeur avait une journée, on essayait, voilà. Et Gérard Pesson, il m'a dit, mais un jour, moi, ça me suffit pas, il me faudrait une semaine. Alors du coup, avec un ami de toute la vie, d'ailleurs.
Vous voulez citer son nom ?
Philippe Regana, qui est oboïste, compositeur et directeur du Conservatoire Populaire de Genève. On a organisé une résidence chez moi.
Oui.
Ça a été, voilà. J'ai préparé le Bösendorfer. Et Gérard venait tous les matins l'après-midi vers 13h. Et à 20h, il m'envoyait un SMS. Tu peux venir. Il écrivait tout au crayon à papier, sa partition. Et je déchiffrais tous les soirs. La pièce, enfin l'avancée de la pièce. Tous les soirs, il y avait des mesures supplémentaires, il y avait des choses de raturer, ou de gommer. Et tous les soirs, je déchiffrais la future pièce, enfin en tout cas, voilà.
Est-ce que c'est pas un rêve d'interprète, ça, de travailler comme ça avec un compositeur vivant ?
Complètement. C'est une super aventure, en tout cas. Et le dernier soir, il a envoyé un message en disant « Ça y est, c'est terminé ». Il est 21h.
Vous êtes d'origine martiniquaise et vous habitez la ville la plus germanique de France, à Strasbourg ?
Oui. parce que du coup, ce qui s'est passé, je venais régulièrement à Strasbourg, je travaillais régulièrement avec Accroche-Notes, Armand Angster et Françoise Kubler. Il y a eu un poste qui s'est libéré à la Hochschule der Kunst de Berne, en Suisse. Il y avait un entretien, il fallait jouer aussi. Et puis il y a eu un deuxième tour pour sélectionner, on était deux, visiblement. Je me suis dit, à l'époque j'habitais à Lyon, je vais pas faire 5 heures de train pour aller jusqu'à Berne donner des cours. Donc j'ai regardé sur la carte. Et puis je me suis dit, quelle est la ville finalement la plus proche ? Strasbourg. Donc voilà, tout simplement. Ça a commencé comme ça.
Pourtant, on aurait pu vous imaginer à Marseille ou dans des pays chauds. Parce que je sais que vous êtes très attiré par le Brésil, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais à la fois, moi, j'ai essentiellement grandi en métropole, donc j'ai l'habitude du changement de température. Je suis pas né dans les îles, donc c'est encore différent là. Je sais que ma mère souffre beaucoup du froid.
Par les musiques qui ont précisément ses racines, je crois. Vous adorez le flamenco, vous adorez la...
Oui, c'est quelque chose qui... C'est peut-être lié aussi au fait que je me pose des questions sur mes origines. J'aime bien l'idée que le compositeur aille puiser dans les ressources, dans ses ressources premières. Donc le folklore, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Par exemple, des Falla avec le flamenco, ou encore Villa Lobos et la musique brésilienne, la musique des Indiens, d'Amérique, d'Afrique, et enfin tout ce mélange qui a pu se produire au Brésil. Ou encore un Bartok.
Dans les Balkans.
Oui, tout à fait.
Alors je voudrais vous faire parler du Brésil. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, même sans doute, que c'est un peu votre paradis idéalisé. Est-ce que j'ai faux ?
Non, pas du tout. C'est un ami qui m'a fait découvrir ça, un ami espagnol qui m'a fait découvrir les enregistrements des tout premiers Jobim et Vinicius de Moraes. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose dans cette musique. Déjà, je m'étais intéressé aussi à Villa Lobos en sortant du conservatoire, mais c'est compliqué d'avoir les partitions.
Est-ce que vous êtes déjà allé au Brésil plusieurs fois ?
Une fois, j'ai joué à Rio.
Ah, une seule fois ?
Oui, j'ai joué au Teatro Municipal. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai joué le concerto de Ravel, et il faut s'imaginer que Villa Lobos a fait venir Ravel et Marguerite Long dans cette même salle pour faire la création. Et pour faire une tournée au Brésil, donc c'était assez... J'imaginais Marguerite Long avec ses colliers de perles et ses chapeaux en train d'arriver au théâtre municipal pour jouer le concerto.
Le pays vous a plu ? La Rio de Janeiro a été à la hauteur de ce que vous imaginiez ? Ou ça reste plus un Brésil imaginaire ?
Ça reste assez l'imaginaire, je dirais. Parce que quand on a des déplacements comme ça, le planning est assez chargé entre les répètes. La salle de répétition de l'orchestre est à 2 heures de voiture... On traverse une espèce d'autoroute. Sur le côté, on voit toutes les favelas. Donc c'est assez...
C'est pas forcément le pays que
vous imaginez. Oui, si, parce que j'avais lu L'Enfer de Patricia Mello, où elle parle justement de cette partie du Brésil. Pas seulement les plages et Copacabana ou Caipirinha, enfin tout ce qu'on veut. Donc j'avais conscience de ça, mais du coup, le fait de le voir... Je sais pas comment j'ai réagi. J'étais dans une voiture, donc voilà, tout allait très bien pour moi. Mais ça m'a beaucoup touché.
Car le Brésil, c'est le pays où, entre guillemets, on pourrait rêver les trois cultures ensemble. la culture d'origine africaine, d'origine créole et d'origine européenne.
Oui, tout à fait.
Une sorte de pays paradisiaque.
Je crois que c'est plus un paradis dans ma tête.
Ou le paradis de Villa-Lobos.
Ou le paradis de Villa-Lobos, tout à fait.
Comment vous décririez son univers ?
Je crois que justement, c'est dans sa musique qu'il y a ce croisement de toutes les cultures où on se retrouve tous. Par exemple, je sais pas, il y a une mélodie qui s'appelle Shango, où on a vraiment l'influence africaine. Ou dans Ruji Poema, il y a un moment où on a ça devient hyper percussif au milieu, aux trois quarts de la pièce, où il y a une espèce de truc comme des énormes tambours qui annoncent je sais pas quoi. Et je crois que c'est surtout l'Amazonie, ces grands espaces. Je crois que c'est ça surtout qui me fascine plus que la ville. J'ai pas eu l'occasion d'aller dans l'Amazonie, ni... J'irai bien, oui. J'irai bien.
Shango, oh, les grands gilets, oh là là, gong, 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 gila. Shango, oh, les grands gilets, oh.
Il y a un peu une similitude avec la Martinique et tous ces espaces. Parce que dans le nord, à Basse-Pointe et un peu plus haut, sont des endroits qui sont pas très touristiques. Et il y a une espèce de faune et de flore qui est... Moi, j'ai souvenir, étant petit, avec les cousins, descendre en bas de la rivière et mon père nous dire « Mais vous étiez où ? On était à la rivière, mais c'est dangereux. » Et voir l'eau... La nature, toutes ces plantes, c'est les fougères qui font 5 mètres de haut. Et donc je pense qu'il y a un parallèle entre l'Amazonie, l'idée que je m'en fais, parce que j'ai jamais mis les pieds, l'idée de cette végétation, et la végétation au nord de l'île, au nord de la Martinique.
Étrangement, vous aviez dit qu'en Martinique, vous aviez trouvé un petit peu la liberté. Est-ce que c'est une idée de liberté que vous associez à cette végétation luxuriante, d'être vous-même ?
Quelque part, oui, mais c'est surtout le fait d'être ancré dans la terre. Je pense que c'est ça qui, dans ces compositeurs, que ça soit Bartok, Villa-Lobos ou Faya, il y a un rapport avec, oui, le fait d'être ancré et pas du tout être dans les airs. Ce rapport à la terre, ce rapport premier.
Est-ce que vous êtes ancré vous-même, William Latchoumia ?
C'est ce qu'on dit.
Ça veut dire quoi ? Avoir les pieds sur terre.
Oui, on me définit pas mal comme ça, souvent. Ma belle-sœur qui me disait « Ah, mais t'es musicien, mais finalement t'as les pieds sur terre, on pourrait penser que t'es dans les nuages en permanence. » Mais pas du tout. En revanche, quand j'étais petit, j'étais tout le temps dans les nuages, ça pour le coup. Ouais. Mon esprit était jamais là, je pensais toujours à autre chose. C'est pour ça que j'étais pas bon à l'école. L'idée de la concentration, peut-être, j'aimais pas ça en plus.
Vous avez l'ambition de devenir le grand pianiste de la musique de Villa-Lobos dans le monde ?
À la base, non, c'est pas le projet. Je marche toujours au coup de cœur, en tout cas. Tout ce qui est du répertoire solo, j'essaie de guider vers les choses qui m'appellent, qui font sens pour moi. Je remarque maintenant qu'il y a de plus en plus de pianistes qui mettent du Villa-Lobos. Là, j'ai vu des programmes passer. Je dis, ah tiens, on joue Villa-Lobos, c'est étonnant.
C'est grâce à vous ?
Peut-être. Qui sait ? Je sais pas trop.
Et ça vous ferait plaisir, si c'était le cas ?
Oui, évidemment. Non, je me suis pas du tout posé ce genre de questions.
Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs brésiliens que vous appréciez beaucoup ?
Camargo Mozart Guarnieri, j'aime beaucoup. Ben, ça, c'est ce que j'ai enregistré dans le premier disque que j'ai fait sur l'Amérique du Sud. Donc oui, j'aime beaucoup. Il y en a pas mal. Hein. Francesco Mignone aussi, c'est très beau. Il fait des très belles valses de salon comme ça.
Et vous aimez aussi la bossa nova?
La bossa nova. oui, mais... Et c'est ce qui est intéressant aussi dans le Brésil, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre les musiques. D'ailleurs, c'est Maria Bethânia, dans un de ses concerts, enfin, il y a une bacchanas qui est jouée, comme ça, dans un concert.
De
Villa Lobos, oui, dans un concert de bossa nova. Ça ne les dérange pas plus que ça. Elle chante même mélodie sentimentale aussi. Sans complexe, elle prend le thème, mais même il y a une samba qui est dédiée à Villa Lobos, alors qu'il n'aimait pas ça. Il disait toujours, le Brésil, c'est pas que la samba et le football. Donc je pense que le fait qu'il n'y ait pas de barrière entre les différents types de musique, ça me dérange pas d'aimer la bossa nova. Ils ont souvent les formules mélodiques se rapprochent souvent de Villa Lobos. Il y a des espèces de similitudes.
Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez envie de nous faire écouter une bossa nova que vous aimez?
Oui, qu'est-ce que je peux vous faire écouter? Vinicius de Moraes, qui est le premier enregistrement de bossa nova. Il y a une pièce qui s'appelle Apelo. Je ne sais pas si je prononce bien. Très belle, avec Maria Bethânia, justement, qui chante.
Ah, meu amor, não vas embora. Vê a vida como chora. Vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes. Pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Minha amada, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei. Eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei.
Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique, dans cette bossa nova que nous venons d'entendre?
Eh bien, c'est le côté, c'est ce qu'on appelle saudade, c'est-à-dire c'est ce mot qui est intraduisible puisqu'on ne l'a pas en français. On l'aurait peut-être en allemand avec Sehnsucht. C'est une espèce de mélancolie, mais pas une mélancolie, pas quelque chose de malheureux, mais heureux. On est entre les deux.
Cette saudade, heureuse, ça vous correspond?
Peut-être, quelque part. On n'est jamais totalement heureux, on n'est jamais totalement malheureux.
C'est la nostalgie des racines?
Oui, mais à la fois pas malheureux de ces racines, puisque j'en profite aussi, quelque part.
Dans votre discographie, on repère également deux disques de transcription. Un, ce sont les opéras de Wagner par Liszt, et l'autre, c'est Cendrillon de Prokofiev, au piano.
Ben, ça correspond à... toujours à mes histoires de racines et d'ancrage. Pour Cendrillon, on est carrément dans le conte, mais on est aussi sur les origines de conte, c'est ça qui m'a plu. Et puis Cendrillon, c'est un coup de cœur que j'avais eu en le voyant à la télévision, je crois, avec la chorégraphie de Maggie Marin. Et je m'étais dit, ah mais c'est génial. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait les transcriptions. Et du coup, c'est... J'ai dû en jouer quelques-unes à une époque, voilà, comme ça. Et c'est Michael Ada qui m'a demandé, alors qu'est-ce que tu vas enregistrer maintenant? Et je me suis dit, et si je faisais tout Cendrillon? Donc voilà, c'est toujours ce rapport avec l'encens, les toy pianos, mais aussi avec le conte traditionnel.
Et d'être l'orchestre à vous tout seul?
D'être l'orchestre à moi tout seul, oui. Parce qu'on dit souvent que j'ai un son orchestral. J'ai une conception assez orchestrale des choses, même quand j'enseigne. D'ailleurs,
ça se traduit comment?
Ben, on fait un retour avec Rosemary Cabestany où elle était préoccupée par la sonorité. Donc ça vient de là, je pense. Et le fait d'avoir écouté énormément de musique vers 13 ans, avoir écouté plein d'orchestres, plein de choses, écouter du Chelsea où on est au cœur du son. Donc je pense que ça vient de là.
Thank you.
Comment vous définiriez votre sonorité, William Latchoumia?
Ben, généralement, c'est les critiques qui l'intellectualisent, enfin, qui la mettent en mots.
Alors, qu'est-ce que vous lisez sur vous, alors?
Des belles choses. Ou parfois des mauvaises. Ah oui, j'ai des mauvais articles, oui. Non, on dit généralement que j'ai un beau son. J'ai un collègue qui souvent, il dit « Ah, monsieur Beauson, il m'appelle. » Voilà. Oui, je suis préoccupé par ça, en tout cas. C'est la première chose qui est importante pour moi.
Sur scène, ça n'a rien à voir avec la sonorité. On est frappé par votre mobilité, votre côté, moi je dirais, félin.
Il y a un étudiant qui m'a dit ça, qui m'a dit « Vous êtes très physique, c'est très chorégraphique, la fin de Route des Poèmes. » Et du coup, je lui dis « Mais comment ça, c'est chorégraphique? Je comprends pas. » Et il m'a dit « Vous faites un geste à un moment sur les dernières notes. » Et il m'a dit « Mais alors du coup, vous avez réfléchi ?» Je dis « Mais non, mais j'ai pas réfléchi au geste. J'ai réfléchi au son que je voulais produire. » Il y a un geste qui se crée par rapport à ce son. Donc ça peut paraître très chorégraphique ou très. Il m'a dit « C'est très impressionnant, vous levez le bras comme ça. » Et du coup, je lui ai parlé de l'enfoncement de la touche et de la vitesse de marteau. J'essaie de... Je contrôle la vitesse du marteau sur la corde. Il y a un geste qui s'invente en fonction de ça. Et une sonorité qui arrive à ce moment-là. Donc le geste, il est par rapport à ça. Mais il y a aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais lever le bras très haut comme ça, ça va faire...
Un effet.
Enfin, ça va faire un effet de fin de concert éblouissant.
Par contre, c'est cela, là, être en prise avec la matière.
Oui. C'est-à-dire, comment on peut être en prise avec la matière sonore, avec un instrument où il y a... tellement de matériaux entre le bout de doigt et la corde. Comment on arrive à choper la corde et à jouer dessus, mais en passant par je sais plus combien de pièces de bois. Du coup, je suis obligé d'avoir un geste qui va changer la sonorité du piano. Parfois, j'en invente, mais ça, c'est dû à la musique contemporaine, parce qu'il y a des choses qu'il faut réaliser, qu'on n'arrive pas forcément à réaliser. Enfin, il faut trouver des choses. Donc il y a des gestes qui se créent, qui s'inventent, mais toujours dans l'idée de créer une sonorité différente. Oui, on me dit que je danse aussi parfois. Je sais pas. Peut-être que je débloque le bassin. C'est peut-être ça, ou je sais pas. Il y a un rapport physique avec l'instrument. Je trouve que c'est important. Je parle beaucoup de détente. Je trouve que c'est important. La détente va produire le son. Et du coup, il y a un moment, il faut se donner les moyens d'être détendu.
Derniers accords de Ruge Poema d'Aitor Villalobos, qui appelle le geste juste, pour terminer le quatrième volet des grands entretiens de Willem Latchoumia. Une série proposée par Laurent Villarem, mixage Manon Houssin, prise de son Martin Troadec, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Dernier épisode demain, la série réalisée par Philippe Petit est d'ores et déjà disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.